Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous tombez à l'instant sur Europe 1 et merci si vous êtes là depuis le début, vous êtes au bon endroit. À suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain avec une immersion auprès de Sylvain Tesson en Guyane et puis Bertrand Chamerois pour son écran de veille spécial Volatile. Notre invité culture est Zaya Ziouani, chef d'orchestre engagée, originaire de Seine-Saint-Denis et fondatrice de l'orchestre symphonique Divertimento, c'est son orchestre. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, la Coupe du Monde de Slam cette semaine avec Christophe Carrière et un documentaire sur la face cachée de la chanteuse Billie Holiday. Ce sera avec le retour de Eva Rock. Bonjour Eva.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour inépuisable Eva Rock.
Oui. Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Qu'avez-vous regardé ce week-end ?
Eh bien, je voulais regarder une série Netflix, mais vous connaissez l'histoire. On perd plus de temps à choisir ce qu'on va regarder qu'à le regarder.
Vous ne pouvez pas me dire ça.
Mais alors, si. Bah si. Alors après 2h45 d'hésitation, j'ai donc abandonné pour mon plus grand bonheur, car j'ai découvert mieux qu'une série Netflix, le reportage que consacrait hier 66 minutes sur M6 à cette bien sombre histoire.
À chaque fois que je regarde à la fenêtre, c'est une angoisse. Je tremble, je suis à bout de nerfs tout le temps.
Car ils sont toujours là à la narguer.
Ils n'arrêtent pas de la narguer, mais qui sont ils ? Des voisins qui écoutent de la musique trop fort ? Un gang sans pitié ? Qui sont ces fauteurs de troubles ?
Les pigeons, c'est la hantise de Yolanda qui ne peut plus les voir en peinture.
Ouais, ce sont donc des pigeons qui font vivre un calvaire à Yolanda et Dieu sait qu'il en faut pour vivre un calvaire à Nice. Hein. Eva, tu ne me contrediras pas, la ville est magnifique, la météo l'est tout autant, 12 mois d'ensoleillement sur 12, sauf dans la rue où habite Yolanda.
C'est comme la pluie qui s'arrête jamais. Là, c'est la tion de pigeon. Vous êtes en train de manger et puis un pigeon qui fait dans votre assiette.
Et bon appétit, bien sûr. Alors, il faut voir les images. Chaque jour, à différentes heures de la journée, il y a une centaine de pigeons qui déboulent dans la rue. C'est impressionnant. On dirait les oiseaux d'Hitchcock, mais version française, donc moins chic. Les pigeons. Et la coupable, c'est elle.
Attirée par le casse-croûte que leur sert Mireille, une petite mamie devenue au fil du temps l'ennemi juré de tout un quartier.
Mets du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons et emmerder tout le quartier.
Et elle donne des kilos de graines aux pigeons, c'est l'enfer. Ce qui, vous l'imaginez, a installé une bien bonne ambiance dans le quartier.
Selon eux, la vieille dame n'a qu'un seul objectif, leur pourrir la vie.
C'est dommage qu'elle ne te crève pas avec la gueule ouverte.
Ah, doit être sympa la
fête des voisins. Mais c'est horrible.
Conséquence, pour tenter de mettre fin à ce fléau, les voisins se sont ligués contre Mireille. Ils lui mettent des coups de pression devant sa porte, mais il en faut plus pour la déstabiliser, car elle n'est pas seule.
Pour la sortir de ce bourbier, Mireille peut compter sur ses pigeons. Il contre-attaque à coups de déjection. Le premier touché, notre caméraman.
Tu fais chier dessus.
L'occasion de saluer une nouvelle fois le travail des journalistes qui ne reculent devant aucune prise de risque. Alors vous connaissez le dicton, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Maxime qui se vérifie également dans l'affaire de la vieille au pigeon.
C'est un des seuls à ne pas détester la vieille dame. Grâce à Mireille, le business de Christophe ne s'est jamais aussi bien porté.
Tu m'étonnes, il est laveur auto. Voilà, laveur auto est très malin, business is business.
Et avec sa femme Linda, il a pensé à tout. Pour les victimes de fiente comme monsieur, ils ont carrément ouvert un pressing.
Et si la fiente est plus petite qu'une pièce de 2 euros, il vous offre le repassage. Oui, il a inventé cacarglace. Ça va, c'est lundi. Voilà. En tout cas, on perd pas le nord dans le sud. Cette histoire me fascine. Il y a tout, de l'action, des rebondissements, un cadre de rêve. Je veux la voir adaptée sur Netflix. Et je pense aussi que le journaliste de 66 minutes rêve de la même chose. Il vend ça comme si c'était un film à suspense.
À Nice, entre espionnage et coup bas, la guerre des pigeons est déclarée.
La suite au prochain épisode.
Merci Bertrand. Eva Rock, je me tourne vers vous. Ce bruitage.
Vous faites très bien.
Vous débutez, Eva, cette semaine de zapping avec un coup de cœur.
Ah oui, Philippe. Alors, un documentaire au titre intrigant, Voyage chez les hommes sans nom. Sous-titre du fameux documentaire, Carnet de route de l'écrivain Sylvain Tesson, au cœur de la Guyane française, aux côtés des hommes de la Légion étrangère. La poésie de Sylvain Tesson, associée à la rudesse d'un univers militaire plongé dans un milieu hostile, la jungle, avait tout lieu de me surprendre. Eh bien, ce fut un enchantement. Et cela, dès les premiers mots de l'auteur qui décrit la Guyane depuis son avion.
Je te vois l'œil au premier abord. Une couverture sombre, plane, d'apparence moutonnée, comme une grande étendue de boursouflure verte, uniforme, inerte, silencieuse, stable.
Et alors aux images sublimes de ces paysages drapés par la brume se substituent les images d'un groupe de stagiaires, donc de la Légion, multipliant les efforts physiques en plein cœur de la jungle. Pendant une heure, on est avec eux, on souffre avec eux. Sylvain Tesson est un homme parmi ces autres, des jeunes gens qui ont comme nom un numéro. Ils viennent de tous les pays, seuls 10% des effectifs sont français. Des déracinés, comme les qualifie un lieutenant avec qui Sylvain Tesson mène une mission pour intercepter des orpailleurs illégaux.
J'apprends tous les jours à découvrir des hommes très radicaux dans le choix qu'ils ont fait. Très radicaux. C'est des gens qui, forcément, nécessairement, ont choisi leur expatriation, ont assumé de découvrir un monde totalement nouveau pour eux. Et c'est des gens déracinés. Et le fait d'être déraciné pour eux, c'est une force. Ils sont prêts à faire ce que les autres ne pourraient pas forcément faire, avec une culture du perfectionnisme qui moi, me laisse toujours béat, chez la plupart, et avec une honnêteté qui est souvent touchante.
Quel documentaire ! D'abord par la qualité de l'information qui est due notamment à la curiosité de Sylvain Tesson et surtout par la qualité de l'écriture évidemment, cet art de la métaphore qu'il manie avec tant d'intelligence et qui rend chaque détail infiniment beau, infiniment poétique.
Je pense que l'expérience du légionnaire, elle a quelque chose de poétique. Il y avait un poète qui était Blaise Cendrars et qui a dit que l'homme de guerre, comme le poète, étaient tous les deux couturés de cicatrices.
Ah, c'est une belle phrase.
Je comprends ça. Et d'ailleurs, ce poète, il était légionnaire.
Ah.
Blaise Cendrars. Il a été légionnaire volontaire pendant la guerre de 14.
Le regard de Sylvain Tesson sur ce monde offre une dimension inédite à ce corps de l'armée de terre française et surtout à ce territoire aussi si méconnu de la Guyane. Mon seul regret, c'est l'heure de diffusion un peu tardive, 23h10 sur France 2. Alors heureusement, il y a le replay, évidemment, oui. Mais je trouve que ça méritait une meilleure exposition.
Merci beaucoup, Eva Roch. On vous retrouve tout à l'heure pour un indispensable consacré à Billy Holiday. Merci beaucoup, Bertrand Chameroy. On vous retrouve aussi tous les matins à 7h40 pour votre chronique sur les pigeons dans la matinale de Mathieu Béliard. Mais non, il ne parle pas que des pigeons, Bertrand Chameroy. Merci. À tout à l'heure, Eva. À demain,
à
Bertrand.
Demain.
Dans un instant, parler de musique avec la chef d'orchestre Zaya Ziouani. Mais d'abord, musique, mais d'un autre genre, avec Oshi.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Tu sais, la vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime. À chaque plaie, j'aurai le médecin. Je t'offrirai mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi. Pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser ma croix. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre compte. Thank you.
Et même après, je t'aimerai, et nous aussi on l'aime, c'était Oshi sur Europe. Dans un instant, notre invité, la chef d'orchestre Zaya Ziouani, en concert le 13 juin à la Philharmonie de Paris avec son propre orchestre qu'elle a monté. Ça aussi, c'est une histoire incroyable. L'orchestre s'appelle Divertimento. Elle est déjà dans ce studio. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Zaya Ziouani.
Bonjour.
Vous êtes chef d'orchestre, vous êtes un cas unique et peut-être en France et peut-être dans le monde. Vous avez créé votre propre orchestre symphonique en 98, vous aviez seulement 20 ans, l'orchestre Divertimento. Vous avez également dirigé de grands orchestres dans le monde qui n'étaient pas le vôtre, comme l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège ou celui de Turin ou l'Opéra de Marseille. Mais le cœur de votre activité, c'est cet orchestre Divertimento. Alors double bonne nouvelle, le confinement, c'est bientôt fini. Les salles de spectacle vont réouvrir et Divertimento, l'orchestre, en concert à la Cité de la Musique, à la Philharmonie de Paris le 13 juin à 16h30 avec des œuvres de Bizet, Manuel de Falla, Grieg, Moussorgsky, Rachmaninov, Saint-Saëns, Tchaïkovski. Mais avant qu'on parle du programme, dans quel état d'esprit êtes-vous? Ça doit vous démanger.
Bah oui, complètement, en effet. Alors, avec l'Orchestre Divertimento, nous, on n'a pas arrêté de travailler pendant un an parce que, en fait, de par notre engagement sur les territoires, on a eu beaucoup, beaucoup d'activités. Et puis, voilà, on a essayé d'entretenir malgré tout notre activité culturelle en faisant des concerts ou des captations avec des petites formations.
Ouais.
Mais là, de se retrouver avec la grande formation de l'orchestre, les 70 musiciens, dans une salle de concert avec du public, en effet, ça va faire un an qu'on n'a pas vécu ça. Donc, en effet, très impatiente de retourner sur scène.
Mais vous avez pu répéter comme normalement ou avec le confinement, c'était plus complexe?
En fait, c'était un peu plus compliqué, en effet, mais on a quand même cherché, grâce à nos partenariats avec les villes où nous sommes en résidence, on a réussi malgré tout à maintenir des répétitions, mais on a été obligé de faire en plus petite formation parce que, imaginez-vous, un orchestre de 70 musiciens plus la distanciation sociale, il faut d'un seul coup des salles très grandes.
Ouais.
Donc on a eu l'occasion de répéter en effet, mais dans des groupes plus petits. Et puis là, du coup, on va bénéficier des grandes salles de la Philharmonie pour pouvoir reprendre avec la grande formation. Donc c'est une reprise en effet très attendue pour nous.
Alors j'ai donné un peu le programme. On va vous entendre dans un morceau qui vous représente bien, vous et l'orchestre Divertimento. C'est la danse de la bacchanale. La Bacchanale, je vais bien le dire, extrait de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. Cette année, ce sont les 100 ans de la mort du compositeur. Ce qu'on va entendre, c'était enregistré à la Philharmonie de Paris en septembre 2012. J'ai appris en préparant cette émission que Saint-Saëns avait été le premier compositeur de renom à composer une musique spécialement pour un film.
Oui,
c'était en 1908, c'était l'assassinat du duc de Guise. Et vous jouez aussi de la musique de film avec Divertimento?
Oui, alors c'est vrai que notre répertoire de prédilection, c'est le grand répertoire du fin du 19e siècle, 20e siècle. Et puis, en effet, la singularité de l'orchestre, c'est aussi de faire des ponts avec d'autres disciplines artistiques. Alors cette année, c'est la danse qui est vraiment à l'honneur de notre programmation. Mais en effet, le cinéma tient une place particulière. Donc on fait souvent des programmes de musique de film ou voir aussi des projets de ciné-concert sur des créations. Et donc, en effet, c'est des liens qu'on aime bien faire.
Et vous avez enregistré un album de musique de film. Sur cet album, on trouve aussi bien le générique de la 20th Century Fox. Je vais bien.
Oui.
J'espère que je suis dans la tonalité. Que la musique de la Panthère Rose, mais également Star Wars. Sur scène, vous avez réécrit la partition. Non, c'est l'original de John Williams.
Oui, tout à fait. C'est la musique originale.
Il n'y a pas d'arrangement.
Pas du tout. Non, c'est la musique originale. Et on a la chance de pouvoir en effet accéder aux parties originales des musiques de John Williams. Et dans ces programmes de musique de film, moi j'aime bien faire référence à des œuvres cinématographiques très différentes qui font appel aussi à peut-être aux souvenirs de générations aussi très différentes. Donc souvent, voilà, les grands-parents par exemple parlent des sept mercenaires aux petits-enfants, et puis parfois on joue aussi les musiques de Pirates des Caraïbes, et donc du coup ça permet aussi d'avoir des références à toutes les générations et de continuer à diversifier nos publics en effet.
Et tout à l'heure, pour les puristes, on aura Ravel et Beethoven, vous inquiétez pas, il y a de tout et on va agrandir, parce que une des raisons d'être de l'orchestre Divertimento, justement, c'est d'abattre les cloisons. Vous restez avec nous, Zaya Ziwani, on va mieux vous connaître, c'est le portrait inattendu. Hélène Manarino dans un instant.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la chef d'orchestre Zaya Ziwani, elle va donner son premier concert de 2021. Les salles de spectacle ouvrent, ce sera le 13 juin à la Philharmonie. Je vous présente Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Zaya Ziwani. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, enfant, après avoir collectionné les cartes Panini, de football, les billes, vous êtes passé à la collection de partitions. Plus précisément, les conducteurs d'orchestre, c'est ce que les chefs d'orchestre utilisent. Alors, je vous propose ce matin de décrire la partition de votre vie. Prenons à distance votre tenue de concert et votre baguette de chef d'orchestre qui se trouve toujours dans votre voiture. Et commençons votre symphonie. La première partition, c'est celle de votre enfance avec une orchestration très précise, le foot, le tennis. D'ailleurs, votre rêve a longtemps été de devenir la tenniswoman Steffi Graf et de faire Roland Garros. Il y avait aussi votre passion pour la Game Boy, les westerns et les documentaires animaliers que vous regardiez avec votre père. Et puis, les après-midi dans la ferme de vos grands-parents à Alger où vous vous occupiez des vaches, jamais sans votre première poupée que vous avez toujours, d'ailleurs. Zaya Ziwani, vos premières mélodies étaient les symphonies numéro 5 et 9 de Beethoven, les concertos de piano pour mode de Mozart, et puis un titre du chanteur kabyle, Idir. Avava Inouva, titre de cette chanson. Cet air a marqué votre enfance, il faut aussi citer 1, 2, 3, j'irai dans les bois, que vous chantiez souvent.
Un classique,
ben oui. Une enfance où parfois le tempo pouvait s'accélérer, surtout quand il a fallu vous chercher au parc Montsouris. Vous aviez seulement 2 ans et vous vous êtes égarée toute seule car vous aviez décidé d'aller voir les cygnes sans pour autant prévenir les adultes. Zaya Ziwani, dans votre répertoire de l'enfance, il y avait également votre passion pour les schtroumpfs, ce qui correspondait d'ailleurs à la décoration de votre chambre. Ils ont très vite laissé place à votre guitare, puis votre alto. Il a fallu parfois composer avec quelques mésaventures, comme ce jour où vous avez lâché un ballon que vous teniez fermement dans votre main. Il s'est envolé dans le ciel. Vous aviez 4 ans, ça a été le drame. Mais vos parents vous ont expliqué que c'est votre tante en Algérie qui l'avait récupéré. Et quand elle est venue vous voir en France, elle a réussi à venir avec ce même ballon.
Génial, quelle bonne idée.
Zaya Ziwani, passons à notre symphonie numéro 2, à une nouvelle partition, celle de votre scolarité, de votre adolescence, des super chefs. Vous en avez rencontré votre maîtresse en CM2, Madame Rode, qui vous a laissé la permission de diriger la chorale. Puis en seconde, il y a eu votre professeur d'histoire qui vous a donné envie d'apprendre. On ne retiendra pas votre prof de terminale qui vous a puni jusqu'à parce que vous avez ri à une blague d'un autre élève. Et oui, votre rêve à vous, d'ailleurs, c'était de devenir prof d'histoire. Zaya Ziwani, votre scolarité a marqué votre grande carrière de musicienne. Vous avez pu assembler les plus belles notes, notamment au lycée en terminale, quand vous avez dirigé un mouvement de la 3e symphonie de Brahms. Votre premier grand concert, salle Gaveau, votre première tenue de chef d'orchestre. Vous impressionniez tout le monde. Et ça ne s'arrêtait pas là. Vous avez laissé tout le monde sans voix le jour où vous avez été contacté pour interpréter, avec votre guitare, le célèbre solo de Led Zeppelin.
Non. Vous savez jouer ça ?
J'ai su.
Hein ?
J'ai su jouer ça.
Vous l'avez fait à la perfection. Faut le dire quand même, vous passiez votre temps à travailler la guitare, l'alto dans votre chambre. Votre sœur, elle, c'était le violoncelle et le piano. Un orchestre familial, une passion commune, vous vous éleviez tous vers le haut. Bosseuse acharnée, vous vous accordiez quelques petites pauses pour apprécier Friends, Beverly Hills. Eh oui, on connaît les classiques. Vous aimiez aussi rajouter quelques tonalités différentes, tonalités de l'humour. Quand il s'agissait de faire des blagues au téléphone à l'agent Yves Lafesse, en changeant de voix grâce au studio d'enregistrement d'un ami.
Non.
Oui. Tonalité de l'adrénaline, quand à l'âge de 15 ans, vous avez fait un saut en élastique en Espagne, sans rien dire à vos parents. Et puis il y a eu aussi ce voyage en Corse, inoubliable, où vous étiez plutôt calme, à tel point que pour vos premières sorties, vous vous êtes endormi en boîte de nuit.
Ah ouais, Zaya. Vous aviez pris quoi?
Vous aviez 16 ans.
Vous êtes bien documenté, dit-on. Ouais.
Passons à présent à la partition finale, celle de votre vie aujourd'hui, rythmée par vos habitudes. Vous préparez toujours vos affaires la veille, vous lisez L'Équipe et Le Monde tous les matins. Vous ne loupez jamais un match de foot de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde, un match de rugby ou encore les JO. Vous faites à merveille le gigot d'agneau. Et puis il y a aussi votre meilleure composition, votre fille Sarah, avec qui vous jouez de la musique. Elle fait du violoncelle, vous lisez ensemble, vous regardez des documentaires. Votre plus grande peur, ne pas être assez présente pour votre famille. Alors Zaya Ziwani, il est temps de terminer cette partition marquée surtout par votre générosité. Vous orchestrez les choses à la perfection pour que la musique classique soit à la portée de tous. Et c'est ça, être une grande chef.
Wow. Merci Hélène Manarino.
Merci beaucoup.
Réaction. C'était quoi les blagues au téléphone?
Oui, c'est vrai, parce qu'avec on avait un copain musicien qui avait un studio d'enregistrement et donc du coup on se retrouvait pour enregistrer.
Mais quel genre de blagues vous faisiez?
La musique, bah vraiment les mêmes que Jean-Yves Lachefesse avec.
Genre il y a un mec dans les toilettes.
Oui, voilà, ou Madame Ledoux. Enfin, c'était des plaisanteries en fait, idiotes, hein, mais c'est vrai qu'on s'est bien amusé.
Et réaction sur le portrait, vous êtes reconnu?
Bah complètement, oui. Bah c'est vrai que moi je suis passionnée par la musique. Alors peut-être que j'ai une trajectoire un petit peu atypique, mais j'étais aussi une jeune comme tout le monde avec voilà avec ses passions. En effet, alors beaucoup la musique, beaucoup le sport aussi, et puis la famille aussi qui tient une place très très importante dans ma vie. Donc je trouve que c'est un très beau portrait, merci beaucoup.
Non, mais vous êtes vraiment unique, parce que moi je connais que vous qui sais jouer des sonates au violoncelle, qui sait faire un solo de Jimmy Page et qui s'endort en boîte de nuit. Je ne connais que vous. Merci beaucoup Hélène Manarino.
Merci,
à demain Hélène. Merci. Zaya Ziwani, vous restez avec nous, on continue de parler de musique et plein d'autres choses. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Zaya Ziwani, qui a créé l'orchestre Divertimento, qui revient en concert. Les salles sont ouvertes à nouveau bientôt. Ce sera à la Cité de la Musique, à la Philharmonie de Paris. Vous pouvez prendre vos places maintenant. Ce sera le 13 juin en matinée à 16h30. Des œuvres de Bizet, Krieg, Mussorgsky, Rachmaninov, Saint-Saëns, Tchaïkovski, Emmanuel de Falla. Il y aura le Boléro de Ravel ou pas?
Non, pas cette fois-ci.
Pas cette fois-ci, parce que vous l'avez joué à l'Élysée, le Boléro de Ravel, devant le président Macron et son épouse Brigitte. C'était il y a 2 ans. C'était le 15 avril 2019. Et alors, quand vous ne faites rien comme les autres, et on va parler de ça, vous avez une manière assez incroyable de travailler la musique, parce qu'il y a la musique, et puis ce qu'il y a autour de la musique, vous avez expliqué Ravel et le Boléro, et devant toute cette docte et prestigieuse assemblée, vous avez remis l'œuvre dans son contexte.
Ce Boléro, donc, qui est une danse espagnole, et donc cette œuvre de la musique française inspirée de l'Espagne. Tout à l'heure, on a entendu la danse bacchanale de Saint-Saëns inspirée de l'Algérie. Donc, on a un magnifique patrimoine musical français, voilà, qui s'est inspiré de plein d'autres cultures, de ces cultures également populaires. Et donc, on est ravis de pouvoir aussi montrer comment l'orchestre symphonique, ce n'est pas juste simplement un univers avec un regard vers le passé, mais au contraire, qui peut aussi proposer des belles rencontres et aussi une dimension très innovante. Ce Boléro de Maurice Ravel, pour finir en musique. Nous vous souhaitons à tous une belle vie avec plein de beaux moments de musique. Longue vie à l'Orchestre Divertimento. Vive la République et vive la France. Merci.
Et là, vous embêtez quand même pas, vous êtes devant le président et vous lui piquez sa punchline. Vive la République, vive la France, vous
bah
osez
oui.
faire ça.
Et en même temps, l'Élysée, c'est notre maison à tous. Donc, c'est aussi cette façon de dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être français, il n'y a pas qu'une seule façon d'être musicien. Et cette diversité, elle est belle, je trouve. Et parfois, elle a souvent été un peu remise en question, je trouve. Parfois, dans un milieu musical qui a du mal aussi à voir les choses évoluer. Donc, je trouvais ça bien de montrer aussi que la musique, elle était justement source de rencontres. Et c'était le moment de le montrer, justement.
On est bien d'accord. Et d'un mot, vous avez inventé les concerts commentés. C'est quoi?
Bah en fait, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir partager avec le public pourquoi on a choisi ces œuvres et aussi d'où elles viennent. Et c'est vrai qu'on a plein de références musicales que l'on connaît, l'opéra Carmen, en effet, Samson et Dalila, plein d'œuvres qui font partie aujourd'hui de notre patrimoine musical français, européen. Et on ne connaît pas forcément leur histoire. Et c'est bien de savoir que les compositeurs ont voyagé et que justement, ils se sont inspirés de cultures autres que celles de la France. Et que c'est ça aussi qui a construit notre pays, notre culture. Et c'est ces belles rencontres. Moi-même, j'en suis aussi peut-être un petit peu l'incarnation. Donc, Donc voilà, je trouve que c'est important de montrer que les rencontres entre les cultures, c'est riche. Et c'est aussi le propos d'un certain nombre de mes programmes de concerts.
On est bien d'accord. Après le concert commenté, le jazz commenté, avec oui. le retour des baroques.
Mais oui.
Hein, une fois n'est pas coutume, vous revenez que de la musique.
Ah oui, alors presque, Philippe, c'est un documentaire qui parle de musique. Il est sorti l'an dernier au cinéma, c'était au printemps, ou à l'automne, pardon. Et il est désormais disponible en DVD. Je tenais vraiment à y revenir en votre compagnie, Zaya Ziwini, parce qu'il est une question que je me pose fréquemment. Pourquoi la musique nous touche? Pourquoi certains morceaux ou certaines chansons nous émeuvent plus que d'autres? Qu'est-ce qui fait que les voix d'Ella Fitzgerald, de Nina Simone ou encore de Billie Holiday me bouleversent autant, physiquement même? Et donc, je suis tombée sur ce documentaire. Dans les années 70, il y avait une journaliste américaine qui s'appelle Linda Lipnack-Kuehl qui s'était lancée dans l'écriture d'une biographie sur Billie Holiday. Elle a accumulé les témoignages, 200 heures d'enregistrement, comme cette interview avec Sylvia Sims, qui est chanteuse de jazz et amie de Billie Holiday.
C'était la plus sensuelle de toutes les chanteuses. Dans ses yeux, je voyais le monde entier. Toute la beauté et toute la misère du monde, Billie Holiday ne chantait que la vérité. Elle ne connaissait rien d'autre.
Ah, cette voix. Le documentaire évoque toute sa vie.
Oui, toute sa vie, de sa plus jeune enfance marquée par la violence des hommes, à sa mort à l'âge de 44 ans d'une crise cardiaque. C'est une vie marquée par les addictions, la souffrance, les coups, le sexe, une forme d'impulsivité aussi. Un destin hors norme pour celle qu'on a surnommée Lady Day. Et elle explique l'origine d'ailleurs de ce surnom.
Cela vient de l'orchestre de Count Basie. Lester Young était un saxophoniste. Il m'a surnommée Lady et la mère la duchesse. Et puis, il y avait Count Basie. On était la famille royale. Je lui ai rendu la politesse en le surnommant le président.
I'd work for you. I'd slave for you.
Et le doc est évidemment rythmé par ses chansons.
Oui, j'en ai des frissons encore à chaque fois que j'entends sa voix. Évidemment, ces chansons qui sont comme autant de points de lumière, d'espoir, parce que le jazz était sa vie, c'était une thérapie, une façon, en tout cas sa façon de raconter le monde. Elle chantait avant tout l'amour et le désamour. Et puis un soir de 1939, au Café Society, dans une salle plongée dans l'obscurité, simplement un halo de lumière sur sa longue silhouette, elle chante ce titre.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves.
Strange fruit, étrange fruit, celui des hommes noirs pendus aux arbres par des blancs. Billie Holiday finissait chaque concert par ce titre dans cette Amérique ségrégationniste. Elle a beaucoup chanté aussi en Europe, là où elle a multiplié les prestations. C'était sa chanson, celle qui prend aux tripes, à ses tripes aussi à elle, qui brise sa voix et qui éclaire ses yeux autrement. On le voit très bien dans le documentaire. Ce documentaire est une beauté infinie, traversée par les grands noms du jazz, de Louis Armstrong à Count Basie. Et puis, il y a en parallèle l'histoire de cette journaliste, à l'origine de ces documents, donc, et qui a été retrouvée morte un jour de 1978 à Washington. Elle se serait suicidée, mais je vous laisse découvrir le fond de l'affaire. Et quand on demandait à Billie Holiday à la fin de sa vie quelle était sa chanson préférée de tout son répertoire, elle répondait « Don't explain ».
You know that I love you.
Ne te justifie pas, chanter Billie Holiday. C'est un documentaire remarquable qui est signé James Erskine, qui est disponible en VOD et qui vient juste de sortir en DVD. Zaya Ziwani, un jour, alors que je découvrais le jazz, un de mes amis qui est un immense connaisseur de ce genre musical m'a dit « le jazz rend moins con ». Alors j'ai mis du temps à comprendre cette phrase. C'est pense surtout que le jazz, par son histoire notamment, rend plus tolérant. Mais au fond, est-ce que c'est pas la musique en général qui rend moins con?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Déjà, ça fait aussi appel à nos émotions et je trouve que c'est important ça. Et c'est pour ça que moi, je tiens beaucoup à ce que la musique, elle soit accessible à tout le monde. Parce que quand vous êtes déjà à un concert, en plus face à un orchestre symphonique, déjà en termes d'émotions, il se passe quelque chose en fait. On reçoit beaucoup d'énergie. Et puis en effet, ça fait appel aux émotions. Et en fait, ce rapport au beau et ce rapport aux émotions, en fait, il faut que tout le monde y ait le droit en fait. Et donc c'est pour ça que la musique offre aussi ces beaux moments et que c'est important, des fois dans des territoires où la vie elle n'est pas toujours simple.
Merci beaucoup Eva Rock. Eva, je vous dis à demain, vous restez avec nous, Zaya Ziwani. Christophe Carrière va arriver en parler de slam, ce sera notre seconde indispensable. Mais d'abord, elle a 23 ans, Oscar de la meilleure chanson pour le film Judas and the Black Messiah, c'est H.E.R. avec Fight For You.
Europe 1, Culture Média. Oh.
Fight for You, c'était Gabriella Wilson, alias H.E.R., 23 ans seulement et quel talent. Dans un instant, encore des mots et de la musique avec l'indispensable Christophe Carrière. On parlait de la Coupe du Monde de Slam à Paris.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de musique, on parle de beaucoup de choses avec Zaya Zouani. Nous sommes avec Christophe Carrière. Culture Média continue, c'est le second indispensable du jour. Et Christophe, vous mettez en avant un genre, d'abord je vous dis bonjour, je vous ai pas salué encore.
Bonjour Philippe.
Vous mettez en avant un genre qu'on croyait tombé en désuétude, la poésie. Et j'ai découvert qu'il existait même un championnat du monde de poésie.
Eh oui Philippe, il faut de sa rime mais pas de sa mime, il faut de sa slam mais pas de sa rame. Bon voilà, j'arrête parce qu'il faut connaître les limites de ses compétences. Parlons poésie donc, et parlons slam. Et quelle différence entre la poésie et le slam ?
Ouais,
une question de
ça.
Catégorie, tout simplement.
J'allais te poser la question.
Très bonne imitation. Justement, le slam popularisé en France par Grand Corps Malade, que vous imitez si bien, vient du terme anglais slam poetry, qui pourrait se traduire par grand chelem de poésie. En fait, soit un tournoi où les Ronsard et Verlaine d'aujourd'hui s'affrontent à coups de rimes et de vers. Et ce soir débute le 16e Grand Poetry Slam qui se déroulera jusqu'à dimanche. Rien de moins que la Coupe de France de poésie, mais aussi, comme vous l'avez dit, le championnat du monde de poésie.
Attendez, juste un mot, ça se passe où ? Parce qu'on peut toujours pas se réunir avec la crise sanitaire.
Non, en effet, pour la deuxième année consécutive, effectivement, ce cercle des poètes retrouvés se suit en direct sur une application Zoom. Chaque candidat en herbe déclame donc son texte chez lui, tandis qu'un jury installé au Culture Populaire, un cabaret qui fait office de temple du slam, il est situé dans le quartier de Belleville à Paris, un jury donc filmé en direct et qui donne ses notes après chaque performance. Alors l'année dernière, la grande gagnante nationale, soit la championne de France, c'était Madame Adèle avec ça.
Poser, son choix, entreposer chez moi. Est-il temps de se confier à nos confrères, les confières qui confèrent des contraintes qu'on traite avec une seule crainte, quand faut choisir qui soigner, quand faute d'agir on va saigner. Poser, son choix, entreposer sans toi. SDF, SD100, datant des centaines de décès. SDF, SD fin, qu'on aura enfin des mesures. SDF ou S de force, qu'on prendra la température.
Voilà, Madame Adèle, gagnante nationale 2020, représente la France pour la Coupe du Monde 2021. Pour qui aime les allitérations et acrobaties grammaticales, ce grand poetry slam, c'est du miel pour les oreilles. Et c'est un vrai poète qui butine pour mettre tout ça en pot. Je parle de l'organisateur, là. Il s'appelle Pilote le Hot. Oui, les poètes ont tous des surnoms aujourd'hui.
Oui,
voilà, moi, ce serait Grande Lune, par exemple. Vous voyez, hommage à ma fille Luna, qui passe son temps à écrire des poèmes. Voilà, bref, Pilote le Hot a 55 ans. Il a édité plusieurs recueils de poésie. Le titre du premier est un poème à lui seul, Amour, poésie et pâte fraîche. Et sa passion est partagée dans le monde entier. De la Pologne à Israël, en passant par la Russie, 20 pays sont représentés au grand poète islam. Alors les textes ont été envoyés en amont et tout est donc sous-titré à l'écran. Il y a donc une organisation très lourde qui pourtant ne bénéficie d'aucune subvention, ce que ne comprend pas Pilote le Hot.
Moi j'ai écrit un courrier personnel à la ministre de la Culture et au ministre de la Culture précédent. En leur demandant pourquoi, parce qu'on est un festival national et international de poésie conséquent, efficace, reconnu, alors que dans les festivals subventionnés, j'en vois plein d'autres. Et nous, c'est manifestement une injustice. On n'est pas subventionné parce qu'il y a des injustices politiques, des différences de traitement, et je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas et j'ai encore... Roselyne, lâche la thune, s'il te plaît.
Eh ouais ! Il faut lâcher la thune, car contrairement à une idée reçue, les poètes ne vivent pas que d'amour et d'eau fraîche. Or, le grand poète islam, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et vous pouvez encore vous sélectionner pour le tournoi national ce soir, dès 19h30. Voilà, pour ça, rendez-vous sur grandpoetryslam.com. Voilà, je vous laisse regarder, c'est facile. Hein. Vous googlisez, vous allez trouver.
Merci beaucoup Christophe Arrière. On est dans le cœur de carrière, on est dans le cœur de votre sujet, Zaya Zouani. Vous-même, votre orchestre Divertimento, je vais revenir tout à l'heure sur sa création, mais vous êtes installé non pas à Paris, mais en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3.
Tout à fait.
Exprès, volontairement. Et vous dites, ce qui m'a vraiment très intéressé, vous dites qu'il faut dépasser les clichés, cesser d'imaginer que tous les gens de ces quartiers ne rêvent que de rap.
C'est exactement ça. Alors après, tous ces arts et ces cultures urbaines sont de grande qualité, surtout sur ce territoire-là. Mais en fait, moi, je trouve qu'on n'a pas le droit de décider à la place des gens de ce qu'ils ont le droit d'écouter ou pas. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps, et parfois encore un peu maintenant, à faire un peu de la pédagogie, parfois avec des décideurs, des élus, des institutionnels aussi, pour leur expliquer que c'est important aussi que la musique classique puisse aussi vivre sur ces territoires et que c'est aussi une culture populaire dans le sens beau du terme. Et depuis 20 ans que je fais ce travail, j'ai jamais entendu un enfant qui se bouchait les oreilles, qui dit ça m'intéresse pas, ou des publics ne pas aimer. Oui. Après, on aime plus ou moins bien, on a envie de poursuivre l'aventure ou pas, mais en tout cas, voilà, cette sensation, tout le monde doit pouvoir y avoir accès. Et en fait, quand vous êtes face à un orchestre, ça envoie les watts, comme on dit. Donc voilà. Donc du coup, ça plaît. Donc c'est vrai que pour moi, c'est important de faire en sorte que cette musique classique, elle ne soit pas identifiée que à des grands lieux institutionnels, même si ça doit pouvoir le faire, mais que ça puisse aussi se vivre partout.
Merci Zaya Zouani pour cette jolie considération. Merci Christophe Carrière.
Mais de rien.
Culture Média continue et comme elle dit, ça envoie les watts.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie d'un personnage, une figure mondiale de la musique classique et pas seulement, Zaya Zouani, vous dirigez l'orchestre Divertimento que vous avez créé. Il faut quand même dire, parce que normalement, les gens qui sont dans la musique classique ont un parcours tout tracé, qui reproduisent les élites. Je ne vais pas vous faire mon petit Bourdieu illustré, mais quand même souvent. Or, vous, vos parents ne viennent pas du tout d'un milieu aisé. Ils sont algériens tous les deux. Ils sont arrivés en France en quelle année ?
Alors, mon père en 62 et puis maman dans les années 70, un petit peu plus tard. Et en effet...
Il faisait quoi dans la vie ?
Alors, papa, il travaillait dans la restauration. Ouais. Et maman, elle a fait partie des premiers cadres qu'on travaillait dans l'administration algérienne juste après la dépendance. Et puis après, quand elle a fait le choix de venir en France avec mon père, elle a passé beaucoup de temps pour nous élever avec mon frère et ma sœur. Et voilà.
Et avec cette particularité que ce sont d'immenses mélomanes qui vous donnent le goût de la musique à vous, à votre frère, à votre sœur jumelle. Je passe les détails. Ils vous inscrivent au conservatoire municipal de l'endroit où vous habitez, Pantin, en banlieue parisienne. Déjà, il y avait un conservatoire à Pantin.
Oui. C'est vrai, il y avait un conservatoire et c'est vrai qu'on a pu... Alors c'est vrai que mes parents sont quand même très des grands artisans en fait de cette réussite qu'on a eue tous les trois parce qu'ils ont été, même si on venait d'un milieu modeste, toujours très attentifs à notre instruction, à notre éducation. Donc nous on aimait la musique, donc ma mère nous a emmenés tout simplement pour nous inscrire au conservatoire à Pantin et voilà, et ça a été après une belle aventure.
Il ne suffit pas de s'y inscrire, parce que vous avez décidé de faire de la musique votre métier, vous avez obtenu un diplôme en analyse musicale, en orchestration, en musicologie à la Sorbonne, vous avez remporté plusieurs prix de conservatoire, alto, guitare classique, mais il y a tellement de choses à raconter sur vous. Tout d'abord, vous découvrez à 13-14 ans le plaisir qu'il y a à diriger un orchestre, la puissance que ça donne à soi-même.
Oui, exactement. Et en fait, ça s'est fait un petit peu par hasard, parce qu'au conservatoire à Pantin, justement, on préparait des concerts et il s'avère qu'il manquait un chef d'orchestre. Et donc, on m'a dit, Zaya, tiens, t'es dégourdi, est-ce que tu veux pas te mettre devant l'orchestre ? Et là, en fait, j'ai vraiment senti cette sensation de conduire les musiciens dans une direction. C'est ça que j'ai aimé, de ne pas être à l'époque une élève, mais considérée vraiment comme une artiste. Et le fait de fédérer des musiciens autour d'une idée musicale, c'est vraiment ça qui m'a plu.
Mais vous avez vraiment quelque chose que les autres n'ont pas, parce que moi, on m'a dit à 13-14 ans, tiens, t'as l'air dégourdi. Tu veux pas t'occuper du barbecue. C'est-à-dire, on ne donne pas un orchestre à diriger. Et là, ça va encore plus loin, puisque vous sentez évidemment que les places sont chères, surtout quand on est une femme, surtout quand on est très jeune, surtout peut-être à cause de préjugés quand on est issu de l'immigration. Et vous décidez de monter votre orchestre à vous, à seulement 20 ans. Comment est-ce possible ?
C'est possible parce que déjà, moi, j'avais du mal à m'identifier dans le milieu de la musique, parce que je voyais pas de femmes diriger, je voyais peu de jeunes.
Non, mais j'ai mal posé ma question. Comment on monte un orchestre ? Il y a des gars qui n'arrivent pas à monter un groupe de rock, ils sont 34, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et vous montez un orchestre de 70 musiciens à 20 en étant, pardon de le dire, personne à l'époque.
C'est vrai. Après, c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. Il y a ma sœur aussi, Fetouma, ma sœur jumelle, qui je suis très proche, qui m'a aussi beaucoup aidée. Et à l'époque, c'est vrai que moi, j'enseignais dans plusieurs conservatoires et je voyais des jeunes. Et c'est avant tout cette aventure aussi humaine que j'avais envie de montrer en musique et de rassembler des jeunes, des talents de la Seine-Saint-Denis, de Paris. Et puis voilà, et ça a commencé comme ça. Et puis après, quand on nous dit que c'est pas possible, moi je me suis dit, non, au contraire, j'étais chercher de l'argent, on a des musiciens.
Et après,
comme ça.
On peut entendre ceci. C'est Beethoven, évidemment, mais je le cite parce que c'est vous qui dirigez. Et on verra toute cette histoire via un film signé Marie Castille, mention char, qui avait réalisé Le ciel attendra. Tournage avec vous et votre sœur jumelle à l'âge de 17 ans, Nils Arestrup.
Oui, tout à fait. Alors, en effet, c'est notre belle histoire. On a eu la chance d'avoir été contactés par des producteurs et puis Marie Castille, mention char, pour pouvoir raconter cette belle histoire. L'histoire d'abord de Fetouma et de Zaya, ma sœur et moi-même. Et puis aussi de la création Divertimento, et c'est vrai que ce projet assez singulier. Et donc voilà, on rentre en tournage là dans quelques semaines.
Pardon de vous corriger, il n'est pas assez singulier ce projet, il est unique. Merci d'avoir été été avec nous, Zaya Ziwani. Je rappelle, vous serez en concert à la Cité de la Musique à la Philharmonie de Paris. Ce sera le 13 juin à 16h30 avec l'orchestre Divertimento. Nous, on se retrouve demain dans Culture Média à 9h. On sera avec Mitterrand et la télévision. C'est un doc à l'occasion du 40e anniversaire de l'accession de François Mitterrand à l'Élysée. Nous serons avec la personne qu'il fallait avoir pour ce moment-là. Le réalisateur Serge Moati, c'est lui qui mettait en scène les grandes images de François Mitterrand. Et puis peut-être le plus grand nom mondial du photojournalisme, Sebastião Salgado, pour son exposition Amazonia. Et c'est aussi à la Philharmonie de Paris, oui. C'est un hasard. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff, ça s'appelle Ça fait du bien. Et je vous dis à demain, salut.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.